Bonsoir Fabienne Saint-Esse.
Bonsoir Charline et les amis, à demain. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, spécial 28e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre ce soir. Je vous promets des rencontres formidables. Allez, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence en attendant avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 7 octobre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par un hommage.
Un hommage au professeur Samuel Paty, il est mort décapité il y a bientôt un an pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans sa classe. L'éducation nationale invite tous les établissements scolaires à organiser un temps de silence et de parole le 15 octobre prochain. On verra comment la proposition est accueillie sur le terrain. Un nouveau scandale de violence sexuelle sidérant, cette fois-ci en plein cœur de l'une des plus grandes écoles du pays, Centrale Supélec. Des centaines d'agressions et de viols l'an dernier commis sur des élèves par d'autres élèves. À suivre aussi les pays de l'Afrique subsaharienne, plein d'espoir avec l'arrivée prochaine d'un vaccin contre le paludisme pour les enfants. Nous serons en Côte d'Ivoire. Des migrants refoulés violemment en Croatie. Bruxelles demande une enquête. Michel Barnier en campagne auprès des éleveurs. Et pour finir, du rugby pour les daltoniens. Fini les matchs avec des équipes rouges et vertes. Mais pas avant 2027.
Deux heures d'émission spéciale ce soir à partir de 18h15 autour de la 28e édition du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. On est heureux d'être partenaire comme chaque année de ce rendez-vous qui donne une voix et un visage aux gens qui sont dans la guerre et qui la subissent. En première heure, vous ferez connaissance avec l'un des plus grands photographes de presse. Il parlera surtout de son Iran natal qu'il n'a pas vu depuis 35 ans. Il s'appelle Manoucher Degati. Je vous promets d'autres rencontres jusqu'à 20h et bien sûr, nous ferons la part belle au reportage.
France Inter.
Son assassinat fut un choc terrible pour tout le pays.
C'était le 16 octobre dernier au collège de Conflans-Sainte-Honorine, il y a près d'un an, la mort de Samuel Paty, enseignant d'histoire géo, décapité par Abdullah Kanzarov, qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures du prophète à ses élèves. Un an après, le gouvernement organise donc un temps d'hommage, de commémoration, auquel le ministère de l'Éducation nationale souhaite associer tous les établissements scolaires. Ce sera le vendredi 15 octobre prochain. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Pas d'obligation pour cette commémoration, mais une invitation du ministère.
Oui, le ministère propose aux établissements d'organiser une minute de silence et de consacrer une heure de cours à un temps d'hommage et d'échange. Mais ce sont aux chefs d'établissement et aux professeurs de décider de l'horaire, du contenu, en fonction de l'âge des enfants. À partir du CM1, cela peut être une séquence sur la construction de l'esprit critique ou sur le métier de professeur, son rôle, sa légitimité. Le ministère met à disposition des ressources pédagogiques que chaque enseignant peut adapter à sa classe.
Et l'an dernier, un hommage, on le sait, avait déjà eu lieu après l'assassinat dans des conditions difficiles. Comment ce nouvel hommage est-il ressenti dans les écoles, les collèges et les lycées ?
C'est vrai que l'an dernier, l'hommage s'était déroulé immédiatement au retour des vacances de la Toussaint. Les professeurs n'avaient pas eu le temps de se concerter. Le ministre avait demandé que soit lue la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, un texte qu'il aurait fallu davantage expliquer aux élèves. Près de 800 incidents avaient eu lieu, allant de l'apologie du terrorisme au refus de participer, en passant par des perturbations de l'hommage. 170 exclusions ont été prononcées à l'encontre des élèves, ainsi que des blâmes ou des avertissements. Les professeurs, comme les personnels de direction, estiment que c'est important d'avoir ce moment d'hommage cette année dans un cadre national avec une journée clairement identifiée. Ils apprécient que le ministère leur laisse toute latitude sur les modalités, mais ils regrettent encore une fois que tout se décide au dernier moment. Il ne reste qu'une semaine pour préparer et tout à l'heure, quand je les ai contactés, certains chefs d'établissement n'avaient toujours pas reçu la consigne officielle de leur rectorat.
Sonia Princey, spécialiste éducation à France Inter. Merci. Les parents de Samuel Paty, ajoutons-le, seront reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée le 16 octobre, un an jour pour jour après son assassinat. Un square à son nom sera également inauguré le même jour face à la Sorbonne.
Ces propos sur la confession ont choqué jusqu'au plus haut de l'État.
Les propos du président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulins-Beaufort, qui dans un entretien de confrères de France Info hier affirmait que le secret de la confession, je cite, s'impose à nous et en ce sens-là il est plus fort que les lois de la République. Des propos tenus au lendemain du rapport Sauvé qui établissait l'existence de 330 000 mineurs victimes d'agressions sexuelles de la part du clergé ou de laïcs. Et moi, au sein de l'exécutif, qui a donc décidé aujourd'hui, sur la demande du chef de l'État, de convoquer le patron des évêques de France au ministère de l'Intérieur. Une rencontre pour s'expliquer avec Gérald Darmanin. Elle aura lieu mardi prochain. Il n'y a rien de plus fort que les lois de la République, a déclaré ce midi le porte-parole du gouvernement. Mon Monseigneur de Moulins-Beaufort qui réagit ce soir dans un communiqué et maintient son point de vue. Le secret de la confession, dit-il, a toujours été respecté par la République française. Ce sera à la une du journal de 19h d'Hélène Philly. C'est une enquête accablante, là aussi, qui vient d'être transmise à la justice par l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, Centrale Supélec, une enquête anonyme qui révèle une centaine d'agressions sexuelles et de viols pendant l'année universitaire 2020-2021. Devant la gravité des faits, Supélec a saisi le parquet d'Evry, qui a décidé à son tour d'ouvrir une enquête préliminaire. Les précisions de Margot Steve.
Un questionnaire anonyme envoyé à près de 2400 élèves avant l'été à la demande de la direction de l'école. Selon les résultats de cette enquête interne, 20 femmes et 8 hommes déclarent avoir été victimes de viols pendant l'année scolaire, 46 femmes et 25 hommes d'agressions sexuelles, 51 femmes et 23 hommes dénoncent aussi des faits de harcèlement sexuel. Parmi ces victimes déclarées, 9 sur 10 racontent avoir été agressées par un autre étudiant dans l'enceinte de l'école ou de leur résidence étudiante. Ces résultats nous ont sidérés, affirme aujourd'hui le directeur de Centrale Supélec dans un communiqué, d'où ce signalement à la justice qui a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Palaiseau. Tout l'enjeu de cette enquête sera d'abord d'identifier les victimes et les auteurs potentiels, puisque les témoignages issus de ce questionnaire sont pour l'instant anonymes.
Margot Steve, la fin de la gratuité systématique pour les tests anti-Covid, ce sera le cas à partir du 15 octobre prochain. L'exécutif dit vouloir mettre fin aux tests dits de confort. Concrètement, les tests PCR coûteront désormais 44 € pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance. Il en coûtera 22 ou 25 € pour un antigénique, voire 30 € le dimanche. C'est un moment historique dans la lutte contre une maladie qui fait des ravages depuis des siècles, le paludisme. Un vaccin anti-palu pour les enfants est désormais au point, après les recherches du laboratoire GSK. Les enfants particulièrement touchés par cette pandémie, un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes dans le monde. L'OMS, depuis hier, recommande son déploiement massif en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. Une lueur d'espoir pour les pays concernés. Illustration en Côte d'Ivoire, reportage à Abidjan d'Amandine Réau.
En Côte d'Ivoire, la découverte d'un vaccin contre le Covid avait laissé un goût d'amertume. Comment se fait-il qu'on mette autant de moyens si rapidement pour le Covid, alors que le paludisme, maladie séculaire, tue chaque année des centaines de milliers de personnes, dont 2/3 d'enfants? L'annonce de l'OMS suscite donc beaucoup d'espoir. Le vaccin permettra de prévenir 4 cas de paludisme sur 10 et 3 cas sur 10 de forme grave. Julien Berquadio, chef du service pédiatrique à la clinique PISAM d'Abidjan.
C'est un grand espoir pour nos enfants. Pour diminuer les décès surtout et les formes graves de palu. Le palu, c'est la première cause d'hospitalisation dans notre service de pédiatrie. On peut avoir beaucoup de cas de paludisme grave avec des formes neurologiques, des hospitalisations en réanimation et des décès. Et les décès aussi sont d'autant plus fréquents dans les zones où il y a moins d'accès facile aux soins. Je me rappelle le cas d'une petite qui était dans le nord du pays et heureusement ses parents ont pu la transporter rapidement sur Abidjan, ce qui l'a sauvée, sinon elle serait décédée dans les 24 heures après.
Désormais, l'alliance du vaccin Gavi, qui co-dirige également COVAX, va se pencher sur la question du financement d'une campagne massive de vaccination. Abidjan, Amandine Réau, France Inter.
Ces romans ont été très peu traduits en France, mais cela devrait vite changer. Le romancier tanzanien Abdulrazak Gourna a été désigné prix Nobel de littérature 2021, cinquième africain seulement à recevoir le prestigieux prix depuis sa création en 1901. Abdulrazak Gourna, ancien réfugié né à Zanzibar, il a gagné le Royaume-Uni dans les années 60 et c'est là-bas qu'il a écrit ses romans explorant la question du colonialisme, de l'immigration ou de l'identité, son portrait dans le journal de 19h. Eux tentent de gagner l'Europe par la route des Balkans, mais ils ont été refoulés très violemment. Des migrants tabassés, repoussés à coups de bâton à la frontière entre la Croatie et la Bosnie. Des images choquantes qui ont troublé jusqu'à la commission de Bruxelles qui a demandé cet après-midi aux pays concernés d'enquêter. Ces images ont été diffusées hier soir par plusieurs médias, Libération, la télé allemande, des médias croates et serbes. Un reportage qu'a pu voir Marie-Pierre Véraud.
Des hommes cagoulés, vêtus de noir, frappent des réfugiés qui courent, glissent, tombent. Nous sommes à la frontière croate, sur l'une de ces frontières qui gardent l'accès à l'Union européenne. Des images montrent ensuite les dos balafrés, des récits racontent les humiliations, le racket aux mains de ces unités spéciales de la police, empêcher à tout prix l'entrée sur le territoire de l'UE. Une véritable stratégie, assurent les médias qui ont enquêté durant plusieurs mois. En Croatie, en Roumanie, il a fallu planquer, installer des caméras à infrarouges, des caméras de chasse dans les arbres déclenchées à distance. Plus au sud, les gardes-côtes grecs sont accusés depuis plusieurs mois de repousser vers la Turquie les embarcations de migrants en mer Égée, au mépris de toute sécurité. Plusieurs vidéos en attestent. Les gouvernements nient. Cette dernière enquête révèle encore les primes accordées aux policiers en mission sur les frontières extérieures de l'Union. Plusieurs dizaines de millions d'euros donnés par l'Europe auraient donc pu financer ces refoulements illégaux et brutaux.
Marie-Pierre Vérot, les liaisons TGV entre Bordeaux et Hendaye interrompues jusqu'à ce soir. C'est la conséquence du déraillement d'un train de marchandises dans les Landes, bloquant le trafic sans faire de victimes. Tous les TGV entre Paris-Montparnasse et Bordeaux et entre Bordeaux et Toulouse sont maintenus. La SNCF qui recommande toutefois aux voyageurs de reporter leur trajet prévu entre Bordeaux et l'Espagne. C'est l'événement où se précipite un grand nombre de candidats à la présidentielle cette semaine, le sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Xavier Bertrand y était hier, Marine Le Pen ce matin, entourée d'une nuée de journalistes, et dans les allées aussi Michel Barnier, présence plus discrète que la candidate du RN, mais volonté de faire, de représenter la droite en 2022. Élodie Forêt était sur place.
La démarche flegmatique, Michel Barnier parcourt les allées, prend le temps de discuter. Si certains reconnaissent l'ancien ministre de l'Agriculture, d'autres ont un peu plus de mal à le situer.
Question, vous savez qui c'est ?
Vous savez qui c'est ?
Non. Vous savez qui c'est ?
Pas du tout.
Je sais mon déficit de notoriété.
Michel Barnier.
C'est pour ça que c'est très stimulant d'avoir des marches de progrès. Et c'est à quoi sert une campagne ? C'est pas de l'invective, c'est pas des slogans, c'est pas des polémiques. Contrairement à ce que certains souhaiteraient, une campagne électorale, c'est débattre, confronter des points de vue, se faire connaître.
Pas d'invective donc à Xavier Bertrand, venu hier au même salon. J'aurais dit bonjour, sourit Michel Barnier. Mais pas question de céder face au patron des Hauts-de-France qui appelle à se rassembler d'urgence. Inquiet, plusieurs éleveurs sympathisants LR l'interpellent.
Ce qu'on nous offre, ça va mener au chaos. Moi je vote à droite, je voterai à droite, ça c'est sûr. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas de vision claire. Aujourd'hui, on n'a pas de leader. Et on en veut un, on veut un leader.
Il faut être patient pour 5 semaines ou 6 semaines maintenant.
J'ai peur que ça soit trop tard.
Face à l'angoisse de ses électeurs, Michel Barnier, impassible, continue son chemin.
Qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Je suis candidat à la présidence de la République.
Vers le Congrès, censé choisir le candidat de la droite pour 2022.
Le rouge et le vert, bientôt proscrits sur les terrains de rugby.
Et ce n'est pas une blague, les instances internationales de rugby réfléchissent à faciliter le visionnage des matchs pour ceux qui mélangent un peu les couleurs. Il n'y aura donc plus de matchs entre une équipe rouge et une équipe verte. C'est le souhait de la Fédération internationale pour la Coupe du Monde 2027. Et ce n'est pas une question d'esthétisme. Le World Rugby veut prendre cette mesure pour les daltoniens. Un enjeu bien plus important qu'il n'y paraît en tribune et sur le terrain, Jérôme Val.
Imaginez en 2027 l'un des classiques du rugby international. L'Irlande en vert contre le Pays de Galles en rouge. Eh bien, l'une des deux équipes devra changer de maillot. L'objectif de cette mesure, selon World Rugby, est d'aider le public qui souffre de daltonisme à mieux suivre les rencontres. Cette pathologie toucherait un homme sur 12 dans le monde, environ 300 millions de personnes. En 2019, déjà, un programme de Google avait permis aux supporters daltoniens de l'Irlande de regarder un match de la Coupe du Monde dans de meilleures conditions, avec notamment des couleurs ajustées sur l'écran. Nous espérons sensibiliser et changer le regard, explique le président de la fédération, Bill Beaumont, lui-même daltonien. Mais l'enjeu se trouve aussi sur le terrain. Statistiquement, on estime que 2 joueurs sur 15 souffriraient de daltonisme avec des conséquences. Plusieurs anciens joueurs ont témoigné de leur difficulté à distinguer les espaces sous le maillot de leur partenaire à cause de ce problème de vue.
Jérôme Val, qui lui voit bien des deux yeux. Un dernier mot de sport avec du foot ce soir, l'heure des retrouvailles entre la Belgique et la France après la victoire de la France contre les Belges au Mondial 2018, demi-finale de la Ligue des Nations. Ce soir, début du match, ce soir à 20h45 à Turin.
Allez, merci beaucoup Sébastien. Vous êtes exempté de Sous les radars ce soir. Émission spéciale consacrée au prix Bayeux-Calvados Normandie des correspondants de guerre, 28e édition. France Inter est partenaire et fier de l'être de ce prix qui parle à la fois de ceux qui couvrent la guerre et ceux qui la subissent. Je vous promets de jolies rencontres avec des photographes, avec des réalisateurs, avec des journalistes, bien sûr. On jette un œil sur le ciel avant de se lancer.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules.
Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau, bonsoir. Beaucoup de grisailles pour demain matin.
Effectivement, Fabienne, les bandes de brume ou de brouillard, parfois doublées de nuages bas, seront assez nombreux demain au lever du jour sur une bonne moitié nord du pays, en particulier près des côtes de la Manche, mais aussi vers le Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais et le sud de l'Alsace. Tous ces phénomènes de basse couche vont se dissiper en cours de matinée. En revanche, votre matinée sera déjà bien ensoleillée des Charentes à l'Aquitaine et de l'Occitanie à la région PACA. Et puis l'après-midi, pas de jaloux, le soleil va s'imposer partout, excepté du côté de la Corse qui restera sous les nuages.
Jean-Pierre, donnez-nous quelques températures pour la route.
Eh bien, après une petite fraîcheur matinale, les températures de l'après-midi seront effectivement agréables. Prévoyez 17 à Lyon, 18 à Strasbourg, 19 à Paris, comptez 20 à Orléans et Toulouse, 21 à La Rochelle et Nîmes, 22 à Bastia, 23 à Calvi et 25 à Fréjus.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup et à tout à l'heure après 19h.